À l'occasion des fêtes de Rosh Hashanah, Maurice Dahan, président du consistoire israélite du Bas-Rhin, vous présente ses meilleurs vœux et répond aux questions de Jean Chekroun.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver pour une émission qui est désormais une sorte de minag à la radio. Chaque veille de fête, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le président du consistoire, en l'occurrence Maurice Dahan, bonjour.
Bonjour.
Merci Maurice Dahan. D'abord, comment vous allez ?
Je vais très bien, grâce à Dieu, et je crois que je dois ça au soutien inconditionnel de ma famille, de mes amis, mais aussi de toutes les personnes qui ont prié pour ma refoua shelema, ma guérison, mon rétablissement, mais également le rétablissement de tous nos amis qui ont été atteints du Covid en particulier.
Alors, félicitations, vous avez été décoré il y a de cela quelques semaines de l'Ordre national du mérite. Ça vous fait plaisir?
Alors, ce n'est pas de l'Ordre national du mérite, c'est de l'Ordre national de la Légion d'honneur.
Autant pour moi.
Ce n'est pas grave. c'est juste une précision, c'est tout.
Vous avez raison.
Oui, ça me fait très plaisir parce que pour mon engagement, je suis très heureux qu'il ait eu la reconnaissance de la nation, puisque c'est le président de la République qui, par décret, m'a élevé au grade de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, mais aussi parce que ce qui a été reconnu, c'était à la fois mon engagement associatif, mon engagement professionnel et mon engagement pour la communauté juive depuis de nombreuses années.
Alors, j'ai lu dans un article que vous avez signé en disant que finalement, pour vous, ça vous fait plaisir évidemment, mais c'est surtout qu'on ait... On va dire qu'on ait relevé votre travail, c'est ça qui vous a le plus touché, qu'on ait reconnu votre implication.
Écoutez, ce qui m'a le plus touché, c'est que qu'on ait reconnu mon implication, bien sûr que ça me fait plaisir. Je ne pense pas que quelqu'un puisse dire que ça ne lui fait pas plaisir quand on reconnaît son implication. Par contre, ce qui me fait très plaisir, c'est pour ma famille, qui, je vous le rappelle, est arrivé en 1966 du Maroc, avec un choix essentiel, c'était celui de l'éducation de nos enfants, de leurs enfants, c'est-à-dire de mes frères et sœurs, mais également que le travail que j'ai effectué avec tous mes collaborateurs, mes collaboratrices, à commencer par actuellement le grand rabbin du Bas-Rhin, bien, je pense que c'est aussi ce travail-là qui est reconnu dans notre relation et notre respect de la République.
Alors, on va, avant de parler de l'année prochaine, on va juste faire un bilan de l'année qui est passée. Alors, on va commencer par la fin. Évidemment, la réussite du congrès français rabbinique qui s'est déroulé à Strasbourg. Tous les participants, pour une fois, c'est 100%, ont été satisfaits de l'organisation. Là aussi, pour vous, c'est une sacrée récompense.
Écoutez, je dois dire que dans les 2-3 jours qui ont suivi son élection, le grand rabbin de France a appelé le grand rabbin Harold Weil et moi-même pour nous dire qu'il souhaitait organiser le premier congrès des rabbins français à Strasbourg. On a immédiatement dit oui. Et je peux rapporter juste cette anecdote me concernant. Il m'a dit, mais attendez, vous dites oui, mais je ne vous ai pas dit quand. Alors, je dis, oui, quand alors ? Dites-moi quand. Il m'a dit, dans 3 semaines. Je dis, ben oui aussi. Et alors, il me dit, mais ça ne fait pas trop court, ça ne fera pas trop court. Je lui ai dit, écoutez, moi qui suis maintenant un vétéran survivant de Réa, je sais que là-bas, on a 5 minutes pour se mettre en action. Alors, je pense que vous me donnez 3 semaines, on aura le temps de tout organiser. Et je dois dire que J'ai vu combien la complicité entre les services du Grand Rabbin de France et nos services ici, aussi bien administratifs que rabbiniques, ont été fructueuses et nous ont permis d'organiser un congrès rabbinique de très très bon niveau.
Alors, il y a eu un invité surprise, mais quel invité? C'est le président actuel de l'Union européenne qui est venu, le Premier ministre slovène en l'occurrence. Comment on intègre ce genre de venue? Parce que c'est un congrès rabbinique tout de même.
Eh bien, on a intégré la venue du président slovène, président de la communauté européenne en exercice, de la manière suivante, la plus simple du monde. Comme je l'ai dit en introduction du congrès rabbinique, un congrès rabbinique à Strasbourg ne reste pas un congrès uniquement des rabbins de France, mais devient un congrès européen, quoi qu'on veuille. Strasbourg a cette dimension-là qui fait que toute chose qui se passe à Strasbourg prend une dimension européenne. Et cette dimension européenne, à la communauté, au consistoire israélien du Bas-Rhin, nous sommes habitués à donner cette dimension européenne et on sait s'adapter à cette dimension-là. Alors je vais vous raconter un des éléments qui s'est passé avec ce monsieur, le président slovène, c'est que tout simplement, nous l'avons reçu à la synagogue dans une cérémonie officielle à l'intérieur du congrès, de même qu'on recevait les rabbins français dans cette cérémonie officielle, et on lui a remis un tableau de collection que nous avons acheté chez un collectionneur et qui dessinait quelque chose qui existe dans beaucoup de maisons juives alsaciennes, le Mizrach. Et donc, en lui remettant, on lui a dit, ce tableau, il faudra que vous le mettiez chez vous, dans la direction de l'Est, parce que c'est vers là-bas que nous prions. Mais vous savez, pour arriver jusqu'à Jérusalem, il faut passer par la Slovénie, parce que c'est à l'est de Strasbourg. Voilà.
Voilà. Ça résume tout. Toujours dans l'article que vous avez écrit dans Ecounir, le dernier Ecounir qui est sorti, qui est d'ailleurs de plus en plus imposant et de plus en plus intéressant, vous disiez finalement que la pandémie a continué à circuler, mais que le consistoire a tenu à faire perdurer certaines activités, notamment en direction de la jeunesse, en direction des personnes isolées. Comment, en tant que président, vous gérez cette situation et ce problème de Covid, en disant que finalement, pas mal quand même de manifestations sont annulées?
Écoutez, avant de vous répondre à cette question qui est un sujet vaste, je voudrais d'abord vous remercier pour votre appréciation du dernier numéro d'Ecounir et de ses précédents, parce que on a une équipe qui se donne un mal fou à réussir chaque numéro. Et je voudrais saluer ici ce travail, puisque vous m'en donnez l'occasion. Je voudrais saluer le travail de toute cette équipe dont j'ai nommé les noms dans cet article auquel vous faites référence dans Ecounir. Pour l'autre partie de votre question, du moins la question plus précisément, vous savez, il était urgent d'apprendre à vivre avec ce virus. Mais apprendre à vivre avec ce virus, c'était apprendre à vivre, à ne pas laisser circuler ce virus et laisser circuler cette infection. Nous avons malheureusement vécu très, très fort cette circulation du virus avec de nombreuses personnes qui ont été atteintes. Certaines en sont mortes. Et ce sont des membres de nos communautés auxquels nous étions très attachés, que nous avons perdu. Tout comme les gens qui étaient malades, ce sont des gens qui, grâce à Dieu, aujourd'hui vont un peu mieux, mais pour lesquels nous avons tremblé. Mais malgré tout ça, il ne fallait pas tomber dans l'hystérie de tout interdire. Mais il fallait savoir autoriser avec respect des règles sanitaires.
Il y a une responsabilité que vous avez qui est énorme.
Absolument, c'est pour ça que faire respecter les règles sanitaires, c'était important, c'était parfois difficile, c'était parfois liberticide, pour parler la langue des Antilles, tout ce que vous voulez.
Ouais.
Mais je crois que les gens ont compris qu'on ne faisait pas ça pour les embêter, on ne faisait pas ça pour les ennuyer, on faisait ça pour leur santé et la santé de leurs proches. Et petit à petit, les choses se sont relancées et les choses ont repris le cours normal, mais avec des restrictions.
Il y a 2 ans, dans cette même interview, au même moment, vous disiez clairement que les personnes qui étaient souffrantes, ou qui étaient âgées ou qui risquaient d'être malades devaient s'abstenir de venir à la synagogue pendant les fêtes, les grandes fêtes en tout cas, en Chana et Kippour. Vous réitérez cette précaution ?
Écoutez, c'est une précaution que j'avais dit à l'époque parce que nous n'avions aucun traitement de cette pathologie virale. Entre-temps,
et le vaccin.
Entre-temps, grâce à Dieu, est arrivé le vaccin. Sont arrivés les vaccins.
Mmh.
Et je crois que de nombreuses personnes se sont fait vacciner. Et nous savons aussi aujourd'hui que ces problèmes liés à la vaccination, qui sont des problèmes classiques pour le type de vaccin qui a été adapté contre ce virus, sachant que la technique utilisée est une technique qui est vieille de 1961 et qu'on doit tous avoir confiance dans le vaccin qui a été proposé et se faire vacciner si on l'a pas été. Et je réitère la même chose que à l'époque. Je pense que si les gens sont vaccinés, ils peuvent venir tranquillement à la synagogue. Que dans tous les cas, à la synagogue, dans n'importe quel lieu de culte, le masque sera obligatoire. Le port du masque sera obligatoire. Mais en plus, je dirais également ce que nous avons mis en place pour que les gens soient conscients de ce que nous leur avons proposé. C'est que quand on a mis les ventes des places en ligne, les gens devaient remplir un fichier et ils devaient répondre à différentes questions, dont une, êtes-vous détenteur d'un pass sanitaire ? Il va de soi qu'on n'allait pas, on va pas demander aux gens de montrer leur pass. Nous leur faisons confiance.
Il n'y a pas de vérification.
Il n'y aura pas de vérification parce que dans les lieux de culte, la liberté de l'exercice du culte est absolue et n'est pas discutée par la loi relative à la présentation du pass comme vous pouvez l'avoir dans un restaurant, dans un théâtre, dans un cinéma ou à l'hôpital. Mais à la synagogue, l'entrée est effectivement libre, mais j'en appelle à la responsabilité de chacun. À savoir, si vous avez répondu en achetant votre place, oui, j'ai un pass, il faut que ce oui soit vrai et sincère et nous vous faisons confiance. Si ce n'est pas le cas, nous vous demandons simplement on vous conseille de faire un test avant de venir à la synagogue pour vous assurer que si par hasard vous êtes en contact de quelqu'un qui est porteur de ce virus, eh bien il ne vous contamine pas. Et si vous êtes porteur de ce virus, que vous ne contaminiez pas d'autres personnes.
On va revenir sur une question d'actualité. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé mercredi ou jeudi dernier comme quoi il y avait une intensification du contrôle des lieux de culte. Pour vous, ça va dans le bon sens ?
Écoutez, pour moi, ça va absolument dans le bon sens. Et
il n'y a pas une sorte d'un peu d'hystérie, de bunkeriser les synagogues ?
Non, je vais vous expliquer la finesse de son propos, si je peux me permettre.
Allez-y.
C'est vrai que la loi est relativement floue pour les lieux de culte. Et que parce qu'elle est floue, il pourrait y avoir des dérives. Et ce sont ces dérives que le ministre souhaite contrôler. Et pour empêcher ces dérives, il va de soi que annoncer que ces dérives devront être vérifiées ou contrôlées va dans le bon sens. Et ce n'est pas de l'hystérie.
D'accord. On va venir sur l'actualité de l'année, si on peut en parler, parce que c'est toujours évidemment compliqué. Alors juste avant, on va quand même donner une date à nos auditeurs qu'il faut qu'ils mettent sur leur calendrier. C'est, je crois que ça vous tient beaucoup à cœur, Maurice, vous allez en parler dans un instant. C'est la création du Sefer Torah de l'Unité. C'est un Sefer Torah qui a été mis en route lors de votre hospitalisation. Est-ce que vous pouvez venir un ou deux mots sur ce fameux Sefer Torah d'Unité?
Écoutez, je suis très ému d'en parler parce que c'est quelque chose que j'ai découvert à ma sortie de coma et quelques jours après d'ailleurs. Et j'ai découvert les différents éléments de cette magnifique opération qui était une opération vraiment d'unité, d'unité de la communauté et d'unité des membres de la communauté juive mondiale et où beaucoup de personnes se sont investies. Je sais que la personne qui avait émis l'idée d'écrire un Sefer Torah pour la guérison des malades et la fin de l'épidémie, cette personne avait contacté ma fille. Et ma fille était dans un trouble parce que elle a toujours vécu des Sefer Torah qui étaient écrits à la mémoire de personnes et pas de Sefer Torah qui étaient écrits au vivant des personnes. Et elle était un peu partagée,
on va dire.
Mais elle y croyait. Et mon secrétaire général, Samuel Onuna, s'arrêtait pas de lui demander qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas. Il y avait des débats dans ma famille. Et au final, une décision a été prise. C'était celle d'écrire ce Sefer Torah. Et assez, ça a été prodigieux. L'argent pour écrire ce Sefer Torah a été collecté en une demi-journée, un vendredi. Et je crois que ça, c'est la preuve que notre communauté est unie, notre communauté est généreuse et notre communauté a beaucoup d'avenir devant elle.
Alors, je n'ai pas donné la date, donc je vais la donner. C'est donc le Sefer Torah pour la Arktasat, le dimanche 3 octobre, à partir de 15h30. Je suppose que ce sera ici.
Eh bien, écoutez, je vais le dire en première, à l'antenne. Nous avons eu une réunion ce matin et il a été décidé qu'on terminerait d'écrire le Sefer Torah à l'Orte. À l'Orte, école et institution à laquelle je suis très attaché, et institution où le directeur a passé récemment plusieurs semaines dans le coma à cause du Covid. Et je voudrais le saluer et lui dire que moi qui le vois en rééducation toutes les semaines, il faut tenir bon. Il y a une capacité de récupération. Il faut y croire, il faut résister, il faut avoir de la résilience. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. On a déjà eu la chance de se sortir du Covid. Il faut avoir la chance de se rétablir à 100%.
Dimanche 3 octobre à 15h30, donc au boulevard Clémenceau.
Et puis après, de l'Orte, oui. Il y aura l'intronisation dans la grande synagogue de la paix. Avec différentes choses que vous découvrirez sur place.
J'ai une question à poser sur, au président du consistoire du Bas-Rhin. J'ai appris il y a quelques semaines que la synagogue Bushaïm, l'oratoire séfarade de Bushaïm, a été fermée. On sait pourquoi ?
Alors, l'oratoire séfarade qui existait à Bushaïm.
À l'Azran, en l'occurrence.
Comment ?
À l'Azran,
tout à fait. C'était un oratoire qui appartenait à l'association des rapatriés d'Afrique du Nord et qui avait été créé et financé à l'époque par un certain nombre de familles. Et cet oratoire fonctionnait, fonctionnait. Il se trouve que le maire de Bischheim, voulant récupérer et rénover toute la cité des écrivains, avait dans son secteur la synagogue de Bischheim, qui était là plantée, la synagogue de Lasserand, qui était là plantée au milieu de son dessin architectural. Et il l'a préempté et il a dédommagé pour ce faire Lasserand, donc cette association. Depuis l'époque où ils ont dû partir de cette synagogue, ils se sont rattachés à l'historique synagogue de Bischheim, qui en avait besoin, tout comme eux en avaient besoin, puisque eux aussi fonctionnaient K1K. Les deux K1K ont fait une belle paire en équilibre. Et puis maintenant, il faut que les deux groupes finissent par s'habituer et s'entendre à vivre et apprendre à vivre ensemble et à construire ensemble pour que l'avenir de la communauté de Bischheim, qui est une communauté qui a quand même amené de nombreux rabbins au judaïsme français. Je n'oublie pas la présence du grand rabbin Warshawski à Bischheim, du grand rabbin Friedman à Bischheim, du grand rabbin Lederer à Bischheim. Je crois que tout ça, c'était une période qui permettait de laisser croire que cette communauté ne pourrait pas disparaître. Et aujourd'hui, on a la chance de la voir renaître.
On va terminer cette interview. Maurice Dahan, président du Consistoire israélite de Strasbourg et du Bas-Rhin, sur l'année qui arrive. Qu'est-ce que vous avez envie de souhaiter à la communauté? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous avez demandé à Kadosh Baruch Hu pour l'année qui vient?
Écoutez, d'abord, vous avez vu que l'année qui vient, nous allons la démarrer par l'installation d'un nouveau Sefer Torah. Un Sefer Torah de vie. Un Sefer Torah qui a montré que notre communauté était capable d'être unie et généreuse et d'avoir des sentiments très forts pour les gens de la communauté qui soient indigents, qui soient malades, qui disparaissent malheureusement. Et notre communauté a toujours su être présente et solidaire. Ce que je souhaite à ma communauté, c'est qu'elle puisse voir cette solidarité, cette unité, cette générosité continuer de s'exprimer pour tous, pour chacun d'entre nous. Que ça nous amène à tous santé, prospérité, bonheur, joie, que toutes les familles qui ont été malheureusement touchées par des décès trouvent enfin le réconfort cette année, mais aussi que ceux qui luttent après ce Covid puissent enfin trouver le répit nécessaire pour une vie tranquille, une vie heureuse et une vie conviviale.
Vous êtes un président heureux.
Je vous donne pas cette impression?
Non, je vous demandais.
Je suis un président heureux parce que j'ai autour de moi une équipe fantastique, faite d'élus, d'administratifs, de rabbins, qui sont tous, les uns et les autres, très efficaces, très compétents, avec lesquels on peut construire des projets magnifiques et avec lesquels nous allons encore construire des projets magnifiques parce que, vous savez, l'objet principal d'un conseiller du consistoire ou d'un président, c'est d'avoir des idées, d'avoir des projets et que ces projets soient cohérents, que ces projets correspondent à une vision de la communauté dans les 50 prochaines années et pas dans l'année qui vient seulement, mais aussi des projets qu'ils puissent voir enfin le jour parce qu'ils seront réalisables. Et je sais que j'ai autour de moi des équipes qui permettront de réaliser des choses et des belles choses aussi bien pour les petits-enfants que pour les adolescents, que pour les jeunes adultes, que pour les jeunes couples, les jeunes familles, les personnes âgées. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire communauté.
Alors, vous m'avez tendu la perche sans le savoir. Je sais que vous me l'avez dit un peu avant l'émission, votre maman vous écoutait. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à la famille Dahan pour cette nouvelle année et au patriarche Maurice ?
Écoutez, d'abord à la famille Dahan, mais également à toutes les familles de ma communauté, je souhaite la santé, la joie, le bonheur, la prospérité, la paix, et que nous puissions facilement et rapidement rejoindre, ne serait-ce que pour quelques jours de vacances ou pour quelques jours de visite, nos familles, nos amis, nos enfants ou petits-enfants qui sont en Israël. Et vous savez que c'est très difficile de rentrer en Israël actuellement, mais je crois qu'ils ont aussi raison.
Alors, juste avant, Maurice Dahan, je veux juste donner une information à nos auditeurs, pour ceux qui nous écoutent à la radio. Le dimanche 5 septembre, il y aura le Yahrzeit de René Jasner, un cercle organisé à la communauté. Vous pouvez aller sur Zoom, sur le code 814-5433-1359. Je crois qu'on pouvait rendre cet hommage à la radio à notre ami René Jasner.
René Jasner, Zichrono Livracha, dont j'ai dû annoncer le décès l'année dernière lors de mon allocution à la Grande Synagogue le premier soir de Rosh Hashanah, et une grande synagogue dont les murs ont vibré par le son de sa voix et qui a formé des générations de personnes, aussi bien à l'école Akiba qu'en préparation bar mitzvah, que tout simplement des gens qui lui demandaient « Apprends-moi tel haftara » ou « Apprends-moi tel morceau de Kriyat HaTorah ».
Il était à la radio également.
Il a assuré de nombreuses émissions le vendredi sur Radio Judaïka. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a oublié, je pense que tout le monde s'en souvient. Ces émissions sur Radio Judaïka, elles étaient juste extraordinaires et tellement riches de contenu.
Voilà. Merci Maurice Dahan. Je vous souhaite évidemment une très belle année, pleine de joie, de santé, de prospérité, de réussite. Et voilà, je voulais vous remercier également Maurice Dahan à chaque fois d'accepter de nous répondre à nos demandes, même quand vous êtes très très occupé, comme c'est le cas en ce moment et on s'en doute. Merci pour votre disponibilité et à très bientôt.
Merci beaucoup Jean, très bonne fête à vous et très bonne fête à tous les auditeurs et à très bientôt.